Une exposition photographique collective intitulée « Passing Note » s'est déroulée à l'Office culturel d'Arras sous la houlette de l'association Incarna, qui proposait de présenter le travail de 5 artistes venant d'un peu partout et d'univers différents. Un point commun reliait pourtant ces photographes, ils ont tous collaboré avec GLC Éditions, qui a publié également certains de leurs ouvrages photographiques. Rencontre avec les photographes qui étaient présents le jour du vernissage, on évoque avec eux leur univers et leur technique, et on commence avec Gildas Le Petit Castel, qui exposait et proposait dans le même temps un court-métrage illustrant ses photos. Il est aussi le fondateur de GLC Éditions. Gildas Le Petit Castel, vous êtes non seulement photographe, mais aussi éditeur. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette maison d'édition GLC ?
Oui, c'est une maison d'édition donc arrageoise, en fait, qu'on a créée en 2011. Le temps passe vite. Et on édite de jeunes auteurs, photographes, qui ont une envie, un projet. Donc, on les aide à le mettre en page, à choisir les images, à faire l'editing, et à aboutir à un objet livre qui leur correspond, qui n'est vraiment pas formaté dans un format classique. On choisit les papiers avec eux, les dimensions, le nombre d'exemplaires, ce qui va l'accompagner. Des fois, c'est un DVD, un CD, des pages d'écriture, un coffret, enfin voilà. Et on réalise l'ouvrage jusqu'au bout, on le porte jusqu'au libraire.
C'est difficile d'être dans le monde de l'édition quand on édite de la photographie ?
Oui, parce que ça coûte très cher à imprimer. Contrairement à du texte, on peut s'en tirer assez facilement. La photo est compliquée à imprimer, on a plusieurs encres, que ce soit en micro, en tricro ou en quadrichromie. Avec des beaux papiers, le prix monte vite et on arrive à des petits livres qui sont des fois, pour 300 exemplaires, à plus de 3000 euros de budget. Donc c'est pas simple d'arriver à trouver un prix de vente correct et pouvoir du coup toucher le plus de monde possible. On essaie de faire les prix planchers. On est une asso à but complètement non lucratif, donc on fait plus bas que le prix normal. Mais des fois, il faut du coup un peu mettre en avant des choses et faire des paris, parce qu'il faut avancer des fonds pour l'impression du livre et la diffusion.
Vous avez exposé pour la première fois l'Office culturel en 2007, hein, il y a 7 ans, si c'est bien ça. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure pendant la présentation, alors vous avez une longue histoire avec l'Office culturel, si je comprends bien.
Oui, mais en fait, j'ai rencontré, en arrivant à Arras, je suis arrivé en 2006, j'ai rencontré Patrick et Martial. À l'époque, j'étais enseignant à l'école d'art, et ils m'avaient proposé cette exposition sur Arras. Je voulais juste faire un livre, qui s'appelait Un nom Arras. Et du coup, voilà, on a décidé de faire cette exposition pour accompagner la sortie de l'ouvrage. Et ensuite, je suis venu à chaque fois voir les photographes qui s'exposaient. Et on a fait une exposition collective également il y a quelques années. Et on reste en très bon contact.
Alors donc, Patrick Devresse et Marcel Rossignol, hein, de l'association Incarna. On va s'intéresser peut-être à votre expo. Alors, la démarche artistique, vous pouvez me l'expliquer ?
Alors oui, moi je suis extrêmement influencé par le cinéma et la musique, plus que par la photographie. J'ai vraiment découvert la photo à travers des films qui m'ont marqué beaucoup étant petit. Et ensuite, mon travail a évolué en découvrant l'œuvre de Bernard Plossu, Serge Larrain, Robert Franck, des street photographeurs qui errent pas mal dans les villes et on tire des images très très sensibles, très personnelles. Donc là, ce qui est présenté aujourd'hui, c'est une série qui s'appelle Colorblind, qui est un travail qu'on a sorti en juillet 2014. Pour la première fois, j'ai fait appel à une jeune modèle qui m'a accompagné. Donc c'est le premier ouvrage où j'ai des images à la fois posées et prises en reportage dans la rue. Donc la particularité de cet ouvrage, c'est que donc, toutes les photos sont en noir et blanc. C'est un peu, ça raconte un peu un pan de ma vie, une histoire sentimentale, de manière inversée, à travers le regard de la femme et pas de l'homme. Et tout est en noir et blanc. Colorblind veut dire daltonien, donc qui ne voit pas les couleurs, mais c'est plutôt les couleurs éteintes de la vie. C'est-à-dire qu'il ne voit plus les joies du quotidien et les couleurs qui l'entourent. Et ce livre est accompagné d'un DVD qui lui est réalisé entièrement en couleurs mais très saturé et montre une autre vision un peu rêvée de la même histoire. Donc en fait, on a deux versions, deux visions, comme dans un film vu deux fois différemment, de cette histoire assez personnelle en fait.
Non seulement vous êtes photographe, éditeur, mais aussi musicien, puisque c'est vous aussi qui avez composé la musique, et en même temps, on peut aussi dire que vous avez des talents de réalisateur. J'ai eu l'impression de me plonger dans un univers qui se rapproche du cinéma de David Lynch.
Oui, alors c'est assez amusant. J'avais sorti avec Sébastien Hart, un ami illustrateur, un livre qui s'appelait The Camomille Project, à une époque où j'avais beaucoup d'insomnie. J'ai dit on devrait faire un livre sur la camomille, et on a sorti comme ça 18 morceaux de musique, je crois 16 ou 18, et puis des images complètement drôles, je dirais assez surréalistes, sur l'ambiance du rêve et de la nuit. Et on a fait des musiques, et on a fait écouter à plusieurs personnes qui disaient c'est très très David Lynch. Et à l'époque j'avais honte, j'avais jamais vu un seul David Lynch, je l'avoue, et je connaissais pas du tout son univers, c'est un gros manque. J'avais vu les Fantômes, mais c'est tout. Et en effet, il y a une parenté assez forte, poétique, je dirais, que je ressens en son travail. Et on aime bien les réverbes, les guitares années 60, les images de femmes qui errent un petit peu, et puis des choses un peu qui sont envahies, bouffées par des rêves à des moments donnés. Donc c'est ça qui a beaucoup d'écho maintenant.
C'est vrai que quand on la regarde, hein, de bout en bout, votre expo, elle est assez étrange. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux. Si on s'intéresse un peu à celle que j'ai devant moi, vous aimez bien les jambes?
Oui, depuis que j'ai vu L'homme qui met les femmes de Truffaut, je suis assez obsédé par les jambes, non, depuis tout petit d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on avait choisi les collants. En fait, ça a été photographié à Londres. Et la première chose qu'on a fait en arrivant, je suis avec Nana Gansana qui m'a accompagné sur le projet. On a fait un magasin de collants, on a acheté des collants que je trouvais photogénique, et je l'ai fait déambuler dans les métros, dans les couloirs, dans la rue, dans les flaques, en photographiant toujours ses talons et ses collants avec un grand trait noir, vraiment en hommage et en écho à Truffaut, à l'homme qui aimait les femmes et les compas qui se baladent, comme il raconte si bien au début du film, dans le paysage. Ouais.
Est-ce que vous n'avez pas envie un peu à un moment donné, parce que votre film finalement c'est un court-métrage, de vous lancer un peu dans le cinéma?
J'y pense des fois, après ça je travaille de manière complètement empirique et en même temps déconstruite, et du coup voilà, je préfère les formats courts pour l'instant. J'ai projeté un prochain film à Albert au Festival de la Photographie au mois de mai, que je dois tourner prochainement, qui n'est pas encore filmé, qui sera un peu plus long, donc peut-être que petit à petit je me dirigerai vers des moyens-métrages, mais je passerai pas le cap, je pense, du moyen-métrage. Mais j'aime bien les films mélangeant des sons urbains, des musiques qu'on peut, voilà, et puis également des images fixes. C'est-à-dire que c'est toujours un mélange de photos et de vidéos, avec des espèces de bribes de vie mélangées à des musiques composées sur les images. Là, au festival à Albert, je jouerai en live avec des improvisations par moment sur les images qu'ils diffusent.
Si on parle un peu de votre technique, elle est un peu différente à chaque fois. Vous jouez avec les ombres, les lumières, l'éclairage, les flous, et puis le grain aussi de certaines photos.
En fait, je pense à chaque livre, qui à la base c'est un livre colorblind, comme un film. Moi je ne suis pas trop pour les expositions, je suis plutôt pour les ouvrages à la base. Et donc un film, il a une couleur, il a un format. Je pense à Wes Anderson que je vénère, Hotel Budapest, etc., qui a plusieurs formats dans le même film. Quand j'ai un projet en tête, je me définis une pellicule, je travaille encore en argentique, que je choisis et que je vais pousser avec un révélateur particulier pour obtenir le grain qui va coller avec mon propos. Là en l'occurrence c'est de la pellicule 400, de la Tri-X, que j'ai poussée à 3002 et que je développe pendant une heure à haute température, pour permettre de monter le grain énormément. Et du coup, voilà, toutes les photos ont le même cachet très graineux, hein, qui rappelle le grain des films de Alphaville de Godard dans les années 60, qui était altéré par lorsqu'ils ont envoyé en avion les bobines à Londres pour les faire développer. Et chaque projet est différent. Des fois, je vais avoir un rendu beaucoup plus lisse. Des fois, je vais avoir un grain beaucoup plus marqué, plus fin. Enfin, voilà. Donc là, il y a vraiment... C'est du noir et blanc avec beaucoup d'ombre et de lumière. Vu que c'est daltonien, comme on dit, ça joue sur les contrastes lumineux plus qu'autre chose. Et c'est beaucoup, beaucoup d'images graphiques, en fait. Comme on a une vue d'un visage sur un lit, donc les gens imaginent ce qu'ils veulent, ils ne savent pas trop ce que c'est en réalité. Voilà, ça c'est extrêmement lumineux sur un fond noir qui forme une vague. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans le graphique.
Vous avez également évoqué tout à l'heure lors de la présentation une phrase, c'est apprendre aux adultes à voir comme un enfant.
Oui, je pense qu'on passe sa vie à se compliquer, et il y a beaucoup de gens maintenant, j'enseigne également en fac, mais qui apprennent à analyser les poils de cul d'un pinceau alors que ça ne sert à rien et le hasard fait beaucoup dans la touche. Et c'est pareil en photo, il y a des gens qui m'ont acheté une photo, je pense à une photo de la Battersea Power Station que j'ai pris parce que j'adore Pink Floyd. Et voilà, c'était le bâtiment qu'on voit sur une pochette de Pink Floyd. Et la personne l'a acheté parce qu'elle voyait en reflet, elle imaginait un couple d'amoureux. Alors elle cherche à comprendre, en réalité c'était mon reflet, moi et ma mère. Et je n'ai pas dit pour vendre l'image, il faut bien vivre, mais les gens ils cherchent toujours à comprendre plus encore. On a l'impression que quand on est trop dans le... on n'a plus le droit de dire c'est beau. Et moi je me bats pour qu'on dise c'est beau. Je donne beaucoup d'ateliers avec des enfants. Je travaille beaucoup sur milieu hospitalier, mais avec des jeunes enfants de CP ou autres. Et j'adore leur manière de voir au ras du sol, complètement libre, faire les photos en courant, en sautant. Et j'encourage plutôt ça, voilà. Je pense que quand on réfléchit trop, on perd le naturel et l'essence de l'image.
Et puis vous avez aussi cité Rainer Maria Rilke avec L'être un jeune poète. C'est justement un poète qui vous tient à cœur.
Énormément, oui, mais ça... Alors, j'ai découvert, presque honte à dire, mais grâce à Benjamin Biolay, parce qu'au début de La Superbe, il y a ces phrases de Rilke, et en concert, on avait cette voix qui lisait un texte de Rilke. Donc du coup, je me suis rué sur quel était cet auteur, et du coup, j'ai lu pratiquement tout ce que j'ai pu trouver de Rilke. Et de Rilke, c'est vrai que l'être un jeune poète, me suis toujours dans les trains. Je fais pratiquement 6 heures de train par jour, donc j'ai le temps de lire, et je m'en lasse pas. Ça résonne, et ça parle si bien de la photographie au final.
Kat Anne nous vient de Nantes et développe un travail artistique mêlant photo et texte. On parle avec elle de sa rencontre avec Gildas de Petit Castel, mais aussi de ses voyages intérieurs qu'elle livre au monde extérieur. J'imagine que vous avez certainement rencontré Gildas, c'est à travers la maison d'édition ou à travers le personnage ?
Eh ben un petit peu à travers les deux d'ailleurs. Forcément à travers la maison d'édition, dans la mesure où aujourd'hui j'ai eu la chance de pouvoir réaliser deux livres chez eux. Et puis aussi un petit peu par le personnage de Gildas, dans la mesure où il y a une réelle rencontre humaine, un réel échange et une réelle écoute également. Que ça soit entre deux personnes, mais que ça soit également en tant qu'artiste et également dans la manière dont on veut montrer la photographie, dont on veut en parler et dont on a envie de la faire partager.
Donc là, on est devant votre expo qui est très intrigante, parce qu'il y a des textes. Et c'est vrai que quand on les lit au premier abord, on essaye de chercher un petit peu. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Gildas, il ne faut pas toujours essayer de comprendre, il faut juste aussi essayer de s'approprier simplement les œuvres. Mais quelle est votre démarche artistique dans cette expo avec les photos et les textes ?
Alors, c'est une belle question qui mériterait, je pense, d'être peut-être déployée dans un espace-temps peut-être un peu plus long. Je vais essayer d'être brève. D'une manière générale, je travaille toujours entre l'image et les mots. Il y en a le retour qui va être constant. Pourquoi ? Parce que déjà, moi, juste intérieurement, je fonctionne avec des images mentales et des mots qui m'habitent et que j'essaie de les retranscrire. Pour cette exposition, premièrement, il est présenté uniquement un extrait, en fait, de l'ensemble de la séquence d'accrochage ou de la scénographie initiale. Ensuite, le choix a été fait de montrer quelques photos avec un texte. Alors que dans le livre, vous allez avoir un texte qui va accompagner en fait chaque photographie. Donc ce projet s'appelle Le Temps 2, le livre s'appelle Le Temps 2. Pour faire simple, en fait, il y a cette journée que va traverser une femme dans son monde intérieur avec ses réflexions. Et chacune des photographies peuvent être lues toute seule, en elle-même, de la même manière que si vous lisez tous les textes, elles peuvent aussi vivre par elles-mêmes. Voilà, donc en fait, il y a aussi deux entrées de lecture, soit par les mots, soit par les images. Voilà, donc là, on va dire, c'est juste un extrait pour essayer aussi de donner envie d'aller découvrir le livre derrière et de s'y plonger autrement.
Ce qui est aussi très intéressant, c'est que quand on regarde vos photos, et qu'on lise les textes avant ou qu'on regarde les photos avant, on ne se prend pas la photo brutalement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que sur chaque image, même si c'est totalement différent, tout est suggéré.
Je vous remercie de dire ça, parce qu'en fait, le propos est de donner une résonance, d'offrir une résonance, un écho en fait au spectateur. Le mot suggestion est un très beau mot. C'est un mot que effectivement j'essaie de retranscrire, que ce soit à travers mes textes ou à travers mes photographies. Et si vous dites que vous l'avez perçu déjà comme ça, merci.
On parle de votre technique aussi, elle est à chaque fois différente. Avec quel matériel vous travaillez? De l'argentique, du numérique?
Alors, pour ce qui concerne l'aspect, on va dire, proprement technique, j'adapte en fait l'utilisation de mon outil photographique selon le sujet que je vais traiter. Si je vois que je vais partir dans une thématique ou un sujet qui va être de l'ordre de... On va parler de l'ordre de l'intime, par exemple, je vais peut-être plus me tourner vers de la photographie argentique, que je pratique quand même plus régulièrement et plus souvent. Par contre, dès que ça va être un travail qui va peut-être être plus de l'ordre de la commande, là, je vais me tourner plus vers le numérique. Voilà. Néanmoins, des fois, il peut y avoir des mixtes selon les projets ou les sujets que je souhaite traiter.
Alors, vous parlez de commande, donc ça veut dire que... comment ça se passe quand on vous commande un travail?
Ah bah alors là, ça peut passer de différentes manières. Ça peut être soit une institution qui va se tourner vers moi pour me demander de travailler avec eux ou de me proposer une carte blanche pour me dire on aimerait avoir ça avec votre propre écriture photographique. Ça peut également être des particuliers qui vont venir se tourner vers moi en disant je vous ai rencontré par tel biais ou votre photographie ou vos mots m'ont touché. Est-ce qu'il serait possible qu'on fasse quelque chose ensemble? J'aimerais qu'on aille là-dedans. Donc ensuite, après, s'engager un dialogue et toute une mise en place de projet. Par exemple, c'est deux manières de faire pour ce qui concerne le sujet de la commande.
Il y avait aussi un film qui illustrait aussi cette exposition. Il a été créé par vous également?
Il a été créé par moi, mais avec Gildas. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qu'on voulait mettre en place au moment du livre, de la création du livre, c'est-à-dire offrir aussi autre chose que juste les images, quelque chose de qui soit fixe et figé, pouvoir aussi le proposer avec ce rapport à l'écoute, ce rapport aussi à l'image qui du coup va venir bouger, et puis aussi encore une autre manière, un autre support, un autre médium, pouvoir donner une autre lecture, une autre entrée dans cet univers et dans cette histoire-là.
J'ai encore deux petites questions. La première, quel est l'endroit que vous rêveriez de photographier dans le monde ou ailleurs?
Belle question. Quel est l'endroit? Si je, aujourd'hui, je vous répondrais que j'aimerais déjà tenter de photographier mes endroits intérieurs et de pouvoir les offrir et les partager avec ceux qui regardent mes photographies ou ceux qui lisent mes textes. Aujourd'hui, je vous répondrai ça.
Ça passe par quoi exactement pour photographier son endroit intérieur? Comment vous le traduisez? C'est un peu compliqué, c'est philosophique.
Comment le retranscrire? J'imagine qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre... d'ordre du passage, d'une transition de l'intérieur vers l'extérieur. J'imagine que c'est quelque chose qui est de l'ordre aussi d'un cheminement que je vais par tâtonnement essayer de retranscrire lors d'expositions, à travers des installations, à travers des livres, à travers différents projets. J'aurais envie de vous l'expliquer comme ça maintenant.
On revient encore à la suggestion, donc c'est d'autant plus intéressant. Et la dernière, est-ce que vous vous souvenez de votre première photo et du résultat?
J'adore vos questions. Non, je ne me souviens pas. Là, je ne m'en souviens pas. Par contre, j'ai une image mentale qui m'est venue. C'est une photo, c'est pas la première, mais c'est celle qui m'est venue spontanément lorsque vous m'avez posé la question. C'est une image que je n'ai encore jamais montrée, comme beaucoup d'ailleurs, comme beaucoup de mes photographies. Qui représente en fait une petite fille qui baisse la tête avec la lumière qui vient l'inonder et qui du coup vient également un petit peu l'effacer et donner quelque chose d'évanescent et de lumineux.
Fabien Pio est de Montpellier. Ses photos retracent le quotidien avec pour cette expo le thème de l'eau. Il nous en dit un peu plus sur son travail et sa venue à Arras.
Comment vous êtes, vous avez atterri à Arras pour cette expo ?
Alors, par la rencontre de Gildas, Le Petit Castel, donc GLC Édition, que j'ai rencontré au début via Internet, puis par la rencontre d'un très grand photographe qui s'appelle Bernard Plossu, dont il a parlé. Cette relation a fait qu'a abouti à la naissance de projets de livres autour de mon travail, donc ce qui explique ma présence ce soir pour cette exposition autour de la maison d'édition.
Alors, ça fait combien de temps que vous vous êtes mis à la photographie ? Ça fait très longtemps ou c'était assez récent ?
Ça fait environ 8 ans que je m'y suis vraiment mis sérieusement. Et mon travail qui est présenté ce soir-là en partie, c'est un travail qui court à peu près sur 6 ans de travail en photographie argentique noir et blanc. Voilà, ce travail qui aujourd'hui fait l'objet d'un livre qu'on est en train de finaliser avec Gildas, justement.
Vos photographies, vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça raconte ?
Alors, mon travail s'ancre clairement dans le quotidien, dans les choses très très simples finalement de la vie. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de reportage, il n'y a pas de thème. La seule chose, c'est ce qui se passe dans la vie. Ce sont des photos d'amis, ce sont des balades, des rencontres, des choses que finalement que tout le monde vit, et c'est juste à un moment donné de faire le choix de photographier tout ce qui se passe autour de soi et d'essayer d'avoir une vision de tout ça, d'en faire des photos. Et puis, ayant un père photographe, j'ai toujours baigné dans ça, j'ai fait des études aux Beaux-Arts, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans une recherche d'une certaine plasticité du travail de la matière, du grain autour de mes images argentiques. Et voilà, donc là, dans cette exposition, ce sont des images autour du thème de l'eau que j'ai regroupées, en fait. Parce que mon travail, finalement, j'ai trouvé des axes dans mon travail, notamment le thème de l'eau qui revient très souvent. Et ce thème de l'eau a fait l'objet d'un premier livre avec Gildas, qui a été édité déjà l'an dernier. Et le livre a été tout de suite épuisé, donc c'est très bien vendu.
Pourquoi ce thème de l'eau, justement ?
Le thème de l'eau, j'aurais du mal à l'expliquer de manière consciente. C'est vrai que je pense que c'est plutôt des choses qui touchent largement les gens, à savoir le paysage de la mer, le paysage maritime. C'est quelque chose de très évocateur, c'est quelque chose qui plaît finalement à la conscience humaine. Ça, on y retrouve beaucoup de la beauté du monde quand même. Et puis au final, je me suis rendu compte que oui, dans mon travail, il y avait cette constante-là, il y avait beaucoup d'images autour de l'eau, et ça s'est révélé à moi comme quelque chose que je n'avais pas réalisé.
Alors, sur le plan technique, votre travail, il y a de l'ombre, il y a de la lumière aussi, mais en même temps, il y a des contrastes. Vous jouez beaucoup avec les contrastes, je trouve, et la luminosité. Quelle technique vous abordez pour travailler ?
Alors déjà, donc, je précisais que c'est de la photographie argentique noir et blanc, à savoir que la prise de vue se fait sur de la pellicule, donc sur des pellicules noir et blanc reconnues pour leurs propriétés de granulation et de matière assez expressive. Après, le travail se fait en numérique, dans le Photoshop, dans lequel on peut recréer une chambre noire, comme un labo argentique que la plupart des adultes connaissent encore. Et dans ce labo numérique, en fait, on retravaille les contrastes, densifier les parties sombres, éclairer les parties claires. Mais après, moi, c'est vrai que je fais le choix de le pousser, d'aller assez loin là-dedans, de chercher la luminosité la plus ténue à certains endroits, les très grandes quantités de noir et de dégradés de gris foncé. Donc c'est vrai que ça donne des images très contrastées, assez... à la fois douce et puissante, c'est ce que j'essaie de faire.
Oui, c'est tout à fait l'impression qu'on a, on a presque même l'impression que c'est des toiles.
Oui, alors c'est vrai que je suis beaucoup influencé par la peinture et la gravure, qui sont vraiment des techniques que j'ai expérimentées et que j'aime beaucoup, notamment la gravure à la manière noire, qui est un type de gravure dont le rendu est très 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 proche de la photographie argentique noir et blanc. Voilà, ce sont des rendus de matière, en fait, ça qui m'intéresse, c'est le travail de la matière, de la sensation qu'on a quand on regarde l'image. J'espère que les gens ont envie de la toucher, en fait, voilà.
Dernière question, est-ce que vous vous souvenez de votre première photo ? Et du résultat, surtout.
Alors, ma première photo, honnêtement, non, je ne m'en rappelle pas. Par contre, le livre sur lequel je travaille actuellement, qui est un vrai livre qui reprend l'ensemble de mon travail en noir et blanc, la première photographie qui ouvre le livre est vraiment la première photographie qui m'a touché et que j'ai décidé de conserver. Donc c'est peut-être ma vraie photographie. Il s'agit d'une photographie de ma grand-mère, qui est une personne que j'aime beaucoup et qui aujourd'hui n'est plus là. Et finalement, j'ai commencé à travailler en photographie en m'intéressant sur les relations humaines simplement familiales, en commençant par ma grand-mère. Et voilà, ce rapport assez simple à la famille, aux proches, qui a irrigué tout le reste du travail. Je pense que c'est assez important.
Arnaud Zajac, quant à lui, est de la région, puisqu'il vient de Valenciennes. Son travail est plutôt miniaturisé, et pourtant il en découle une énergie étrange. Explication à suivre.
Il y a quelque temps, on a construit un livre avec GLC Éditions, avec Gildas Le Petit Castel, qui s'appelle Sombre, le titre du livre. Donc, c'était une belle rencontre qui a permis d'aboutir à un livre, et on en a un deuxième en préparation qui devrait sortir dans quelques semaines ou quelques mois en fonction du calendrier.
Vous avez choisi un format très très petit.
Alors pour moi c'est important de créer un rapport d'intimité entre le spectateur et l'image, un rapport d'intimité qu'on a systématiquement avec les images qui sont reproduites dans les livres et qu'on a rarement finalement dans le cadre d'une exposition. J'aime qu'on s'approche pour regarder mes images alors que d'autres préfèrent qu'on se recule pour les appréhender dans leur totalité. Ensuite, il y a un rapport à la matière du papier photo qui est vraiment différent avec ces miniatures. On s'approche, on scrute les moindres détails. On s'approprie un peu plus l'image que quand on est devant un format plus important.
Oui, c'est un peu le format Polaroid en fait. Vous travaillez avec quel matériel ? Est-ce que c'est de l'argentique ?
Alors c'est du numérique, mais c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est de l'argentique, puisque ça ressemble à de l'argentique, on pourrait dire. Quand je me suis mis à faire des photos avec un appareil numérique, j'étais frustré, il y avait un manque en fait, il n'y avait pas la matière, le grain de l'argentique. Et donc j'ai mis au point une sorte de protocole de prise de vue pour retrouver une profondeur, une matière dans la photo qui n'est pas le grain de l'argentique, mais qui donne une certaine profondeur à l'image qu'on n'a pas en général en numérique.
Alors, est-ce que sur tous ces clichés qu'on voit là, il y a une histoire ? Est-ce qu'il y a un ordre ?
Alors, il y a un ordre. Ces séries, en fait, sont extraites de petits carnets que j'imprime moi-même, avec la même technique d'impression que les images qui sont ici au mur. Ces séries sont extraites des séries qui sont dans les carnets. Elles sont plus courtes parce que, généralement, il y a des images qui peuvent fonctionner dans le cadre des petits carnets, mais qui ne fonctionnent pas forcément quand elles sont l'une à côté de l'autre au mur. Chaque série correspond à une saison. Je construis un carnet par saison depuis maintenant un peu plus d'un an. C'est presque narratif. En fait, je joue sur l'ambiguïté entre des images qui peuvent être lues comme étant narratives, des séries qui peuvent être lues comme étant narratives ou lues comme étant uniquement justifiées par des rapports plastiques les unes entre les autres, qu'elles entretiennent les unes avec les autres.
C'est peut-être pour ça alors que vous ne saisissez pas toujours au niveau du centre le personnage. Des fois il est un peu décalé sur la gauche. Tantôt, je regardais tout à l'heure là-bas, il y avait juste un bras qu'on voyait là, avec des carabines sur une sorte de stand de foire. Donc est-ce que c'est le moyen pour vous de faire plutôt une suggestion qu'une que voir directement les choses ?
Alors je crois que cette espèce de cadrage un peu dynamique comme ça, avec les choses qui ne sont pas forcément là où on les attend, c'est... Moi, je crois que ça a plus à voir avec une vision cinématographique de la photo. Il y a des photographes qui s'arrêtent pour photographier. Moi, je photographie en mouvement. C'est-à-dire que pour les photos de rue, je marche et je déclenche en marchant. Je fais beaucoup de photos en voiture aussi, parfois même en conduisant. Alors, je fais attention, hein. Mais c'est le côté dynamique qui serait peut-être à rapprocher d'une vision cinématographique de la photo, je pense.
Dernière question, est-ce que vous vous souvenez de votre première photo et le résultat ?
Non, je me souviens pas. Par contre, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, en fait. J'ai toujours été fasciné par, par la photo depuis l'enfance. C'est vraiment une fascination, en fait.
On termine le focus de ces 5 artistes avec le Marseillais Patrice Bello, qui lui utilise son iPhone comme outil de travail. Au travers de ses photos, on évoque avec lui son œil de photographe.
La photo est venue un petit peu, disons, pas par surprise, mais venue comme étant vraiment une passion qui s'est greffée à un quotidien plus... Plus théorique, disons. Voilà.
Si on parle un peu de votre technique, vous travaillez avec quel matériel ?
Alors c'est très très variable. Hein. Donc là, la série qui est exposée ici est une série qui est faite uniquement avec iPhone, donc sans traitement autre qu'une seule et simple application, une des plus anciennes d'ailleurs. Hein. Mais sinon, on peut m'arriver, suivant les envies du moment, de travailler avec du matériel récent, du matériel ancien, beaucoup d'argentique, beaucoup de numérique. Enfin, c'est vraiment à chaque outil... disons, une finalité différente.
Au travers de toutes ces œuvres qu'on voit là, on sent quand même qu'il y a pas mal de personnages, parfois seuls. Il y en a une seule ou il y en a plusieurs sur un pont, une sorte de pont. Quel sujet vous recherchez exactement dans ces photos ?
Oui, alors quand c'est cette série-là, en fait, avec l'iPhone, c'est vrai qu'il y a l'impression, en fait, il y a beaucoup de photos qui ont été réalisées lorsque je suis justement en déplacement professionnel. Et donc on est amené à rencontrer des gens qu'on ne connaît pas nécessairement. Et dans ces moments-là, il y a toujours un petit moment d'acclimatation où on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas et puis on doit un petit peu regarder. Et je pense que dans ces moments-là, on est un petit peu plus sensible à la solitude de certaines personnes. Et donc repérer des personnes isolées, c'est quelque chose qui m'intéresse de voir dans ces lieux-là. Et les couleurs un petit peu fortes, c'est justement, ça contrebalance un petit peu aussi un petit peu cet aspect-là. Donc je pense que pour cette série-là, c'est ça. Ce que je recherche, c'est un petit peu ce moment de déracinement ou de personnes qui va vers quelque part. Donc il y a pas mal de gens qui sont de dos également, hein, donc c'est plutôt ça. Mais après bon, là c'est cette série, hein. Il y a d'autres séries où c'est bien différent, mais là c'est ça.
Et il y a aussi un feu rouge. Alors elle me plaît énormément celle-là parce qu'il y a le côté urbain, le côté rural. Comment vous l'avez trouvé, alors, ce feu rouge?
Oui, alors celle-là, le feu rouge au bord de la route, en fait là c'est tout simple. Donc là c'est pris pas loin de la maison, hein, donc c'était un matin d'hiver un petit peu givré, et là je venais d'amener les enfants à l'école, et en partant j'ai vu ce truc-là et je me suis arrêté au bord de la route. Donc voilà, il m'a accroché, et depuis j'ai plus revu ce paysage-là sous le même regard. J'ai plus vu ce paysage-là gelé comme ça, et donc ce truc-là, je me demande s'il existait ou pas. Je suis d'accord que celle-là, les autres, c'est simple, je sais très bien comment elles sont, je pourrais les refaire, enfin, à peu près, mais celle-là, je sais pas. Non, celle-là, t'es un petit peu mystérieuse.
Aujourd'hui, hein, tout le monde prend des photos avec son portable, son iPhone, mais vous, avec votre regard de photographe, j'imagine que c'est quand même difficile de pas déclencher à tout va. Comment vous sélectionnez les moments, le moment où vous vous dites ça, je le veux maintenant?
Ouais, j'en sais strictement rien. La photo avec iPhone, où on a toujours l'appareil sur soi, quasi prêt à déclencher, parce que c'est quasi, il faut quand même un petit peu quelques manipulations. C'est évident que l'impulsivité est beaucoup plus forte. Donc on peut arriver, je pense, que quasiment n'importe quand, on se dire, ben ouais, là il y a quelque chose qui m'arrête, et s'il y a quelque chose qui m'arrête, je ne vais pas réfléchir pour ce type de photo, à savoir est-ce que je le fais ou je le fais pas. Tandis que si je me balade avec un appareil un petit peu plus conséquent, style moyen format, là effectivement à chaque fois, et des fois c'est à tort, parce que des fois on s'aperçoit qu'il y a des images que sur le moment on a prises, et puis en les regardant on se dit bon, finalement c'est pas génial, et puis on les regarde 6 mois après, puis finalement c'était pas si mal que ça. Voilà, donc la quantité, ouais, je pense que t'as pas trop, enfin je sais pas, moi je réfléchis pas trop quand je parle, voilà, ça vient comme ça quoi.
Quel est l'endroit peut-être dans le monde que vous aimeriez bien avoir en cliché ?
Difficile, je suis attiré par les paysages du Nord. Donc plus on va au Nord, plus ça marche. Donc je dirais peut-être, ouais, séjourner suffisamment longuement, je sais pas, sur une île écossaise, ce genre d'endroit, et pour m'approprier le paysage et pas le voir simplement comme touriste. Je pense que ce serait ça. Sinon, il faut quand même qu'il y ait de l'humain, si possible. Donc il ne faut pas que ce soit complètement désertique. Mais ce qui est sûr, c'est que suivant les villes, on a plus ou moins de facilité à photographier. J'ai pas mal de mal à photographier, contrairement peut-être à pas mal de personnes chez moi. Voilà, donc j'ai commencé une série sur Marseille, mais j'ai un petit peu plus de mal. Je photographie plus quand je suis loin, mieux quand je suis loin, quoi, je crois. Enfin, bon,
c'est peut-être aussi la découverte en même temps.
Peut-être, ouais. Ouais, oui, c'est peut-être c'est ça. Peut-être
et dernière voir. Question. Est-ce que vous vous souvenez de votre première photo et du résultat ?
Ah oui, absolument. Ça, je m'en rappelle très très bien. C'était au moment où je me revois mes parents me confier un appareil photo des années 50, entièrement manuel. Et je me revois sur un chemin dans les Alpes. Et je pense que j'avais dû, avant de déclencher, attendre de longues, longues minutes. J'hésitais. Et je revois mes parents dire, maintenant, il faut que tu appuies. Parce que voilà, c'est ça. Donc, je m'en rappelle très très bien. La photo est une photo noir et blanc. Donc, prise assez loin. On voit les personnages un petit peu penchés, quoi. Et voilà, donc...
Vous l'avez conservé ?
Ah oui, je l'ai conservé, c'est dans un album de photos classique, quoi. Donc,
ouais, d'accord.
C'est pas la conserver, mais elle est conservée, ouais.
C'était un sujet autour de l'exposition photographique collective de 5 artistes intitulée Passing Note. Elle s'est déroulée à l'Office culturel d'Arras et a été proposée par l'association Incarna.